carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
On l'oublie souvent, la bibliothèque Mazarine est la plus ancienne bibliothèque publique française dont l'activité se poursuit dans les mêmes locaux depuis 3 siècles. Et elle est donc toujours là, au sein du siège de l'Institut de France. Parmi ses conservateurs, l'abbé Gaspard Michel Leblon y joua un rôle prépondérant, à tel point qu'il est désigné comme le second fondateur de la bibliothèque Mazarine. On verra que le premier, c'est évidemment Mazarin. Leblon fut sous-bibliothécaire de 1770 à 1790, puis il dirigea cette bibliothèque de 1791 à 1801. Il conserva le titre et le traitement de directeur jusqu'à sa mort en 1809. On peut voir qu'il l'a dirigée pendant une période ô combien agitée. Depuis novembre dernier, à l'occasion du bicentenaire de sa mort, la Mazarine publie un ouvrage collectif qui lui est consacré et expose 30 ouvrages considérés comme exceptionnels. Ce sont des ouvrages qu'il a su acquérir au cours de son mandat. Isabelle de Cognioud, conservateur en chef et commissaire de l'exposition, est avec nous pour évoquer l'histoire de cette bibliothèque exceptionnelle et la personnalité non moins exceptionnelle de son second fondateur. Bonjour Isabelle de Cognioud.
Bonjour.
Quelle est l'histoire de cette institution qui a traversé 3 siècles entiers ?
Alors, comme vous l'avez dit, la bibliothèque Mazarine a évidemment comme premier fondateur le cardinal Mazarin. Mazarin, donc, est italien. Il est né en 1602 et il a été appelé par Richelieu, qui a voulu en faire une espèce de... C'est évidemment anachronique, mais une espèce de chef de cabinet. Et il est arrivé en France au début de 1640. Il a très vite pris une part très importante dans le système politique français. Et dès la mort de Richelieu en 1942, il reste conseiller privilégié de Louis XIII, qui meurt lui-même très rapidement.
En 1943.
En 1943. À partir de ce moment-là, il y a une espèce de petit tour de passe-passe à la cour. Enfin, il devient donc le premier ministre, le titre évidemment n'existe pas, d'Anne d'Autriche. Et il va occuper cette fonction sans discontinuer jusqu'à sa mort en 1661. À l'exception de la guerre civile, la Fronde, pendant laquelle le Mazarin est forcé de partir en exil. Là, évidemment, l'aspect politique de Mazarin ne nous intéresse pas du tout aujourd'hui. C'est l'activité de Mazarin comme collectionneur, collectionneur d'objets très importants. Je rappelle que nous avons pu consacrer un grand colloque à Mazarin en 2002, dont les actes ont été publiés par la bibliothèque Mazarine et les éditions Monet-Layot. Et donc, tout cet aspect de la vie de Mazarin est retracé très en détail dans ce volume. Ce qui est important, c'est que dès qu'il prend comme ça ce rôle de premier plan politique auprès d'Anne d'Autriche, c'est en même temps qu'il décide de s'adjoindre les services d'un personnage très remarquable qui est Gabriel Naudet. Gabriel Naudet, c'est un, on dirait maintenant, un intellectuel. Il appartient au cercle de ce qu'on a appelé les libertins érudits. Il était d'ailleurs libertin surtout dans le sens libre-pensée et il était au contraire d'une austérité monacale pour sa vie privée. Mais Naudet était un grand spécialiste de livres et de littérature et il avait accompagné le cardinal Bani en Italie pendant plus de 10 ans et il avait acquis à son contact des méthodes assez remarquables qu'il va mettre au service de Mazarin. Et donc, il devient son bibliothécaire en 1643 et en moins, c'est une chose incroyable, en moins de 5 ans, avant la Fronde, il réussit à fabriquer de toutes pièces pour Mazarin une bibliothèque qui est la plus grande existant à Paris à cette époque. À titre d'exemple, la bibliothèque du prédécesseur et du grand modèle de Mazarin, qu'est le cardinal de Richelieu, comptait 12 000 livres. Naudet, lui, réussit à acheter pour Mazarin, donc je vous dis en moins de 5 ans, une bibliothèque de 40 000 volumes. Donc une chose absolument prodigieuse.
Il allait sur place.
Alors il avait des méthodes très amusantes. Il a commencé par acheter des bibliothèques entières au moment de leur mise en vente, la première étant celle du chanoine des Cordes. Et puis il allait chez les libraires où il achetait pratiquement la librairie entière, les rayons entiers, quitte après à faire des échanges doubles qui servaient à alimenter l'accroissement successif de la bibliothèque.
Est-ce que c'est lui, excusez-moi, je vous interromps, qui a mis en place le système des cartes à jouer ?
Non, ça non. C'est plus tard. C'est une chose, effectivement, vous avez raison, qui est un peu propre à son origine à la bibliothèque Mazarine, puisqu'au XVIIIe siècle, donc
oui,
plus tard, on se servira des cartes à jouer pour fabriquer le catalogue de la Mazarine. Naudet, lui, n'a pas eu le temps de faire vraiment un catalogue. Il a commencé, je raconte ça dans l'article que j'ai publié dans les actes du colloque Mazarin dont je vous parlais, Et alors, une fois que Naudé a eu acheté tout ce qu'il pouvait à Paris, il a fait de véritables expéditions à l'étranger. Il est retourné en Italie, où il connaissait tout le monde, il connaissait les libraires. Il est allé en Allemagne, il est allé en Angleterre. Le seul endroit où il n'a pas pu aller, c'est en Espagne, puisque la France et l'Espagne étaient en guerre à ce moment-là. Et avec ces collections prodigieuses qu'il a réunies en tellement peu de temps, toutes ces collections ont été installées dans le palais de Mazarin, qui n'est donc pas évidemment l'actuel palais de l'Institut dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais qui est la Bibliothèque nationale, qui est devenue la Bibliothèque nationale, donc le palais de la rue de Richelieu. Dans ce palais, dès 1643, la bibliothèque de Mazarin, enfin l'embryon de la bibliothèque de Mazarin, c'était une nouveauté absolue en France, était ouverte au public. Alors évidemment, c'est un public choisi, un peu différent du public actuel, mais un public d'érudits et de gens de lettres. Et 4 ans plus tard, en 1647, une somptueuse galerie avait été édifiée par l'architecte Pierre Lemuet, qui occupait toute la longueur de la rue de Richelieu. Une galerie ornée de 50 colonnes que vous voyez toujours, qui ont été transportés dans ce qui est maintenant la bibliothèque Mazarine,
ici.
Et donc, tout ceci était prêt à fonctionner à la veille de la Fronde.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Fronde ?
Alors, il s'est passé des choses évidemment tragiques dans beaucoup de domaines, mais notamment pour les collections de Mazarin, puisque le Parlement a réussi à faire confisquer la bibliothèque extraordinaire réunie par Naudé. Et que cette bibliothèque, après avoir été mise sous scellé pendant 2 ou 3 ans, a finalement été vendue aux enchères au cœur de la Fronde en février 1652. Mazarin était en exil à ce moment-là.
Il avait envoyé des commanditaires pour acheter, pour récupérer aux enchères. Alors,
ce qui est un peu curieux, c'est que Mazarin, à ce moment-là, il avait évidemment beaucoup d'autres soucis, a d'une certaine manière un petit peu baissé les bras. Et c'est son bibliothécaire Naudé qui, lui, s'est soucié de sauvegarder la bibliothèque sans avoir des instructions très, très, très précises de Mazarin. Alors d'abord, il avait mis à l'abri dans son domicile personnel, il résidait dans l'abbaye de Sainte-Geneviève, 30 livres considérés comme les plus précieux de la bibliothèque de Mazarin, les 30 trésors de Mazarin, qu'il avait cachés donc dans son logement et qui seront restitués à Mazarin
à son retour
après la Fronde en 1654. Ces 30 livres, d'ailleurs, soit dit en passant, ont fait l'objet d'une exposition que nous avons également faite en 2002. Et c'est un petit peu par
un clin d'œil,
le fait que nous avons choisi de célébrer l'anniversaire de l'abbé Leblond, en choisissant aussi 30 livres parmi ceux qu'il a fait rentrer dans
l'histoire
les collections
continue.
De Mazarin. Et donc, pendant la Fronde, tout a été vendu aux enchères, les 40 000 livres, mais Naudé a réussi à faire acheter en sous-main par des amis, des libraires favorables ou des gens favorables au cardinal, environ un quart de la bibliothèque.
Que sont devenus les 3/4?
Alors, les 3 autres quarts ont été dispersés, sont entrés chez d'autres collectionneurs, d'autres amateurs de livres. Dans les grands ennemis politiques de Mazarin, il y avait le Parlement, il y avait Gaston d'Orléans, qui sont tous de grands amateurs de livres
aussi,
et qui avaient extrêmement envie de récupérer pour eux les livres de Mazarin. Et alors, c'était assez facile parce que les livres de Mazarin, chose extrêmement curieuse, alors que Mazarin a semé ses armoiries que nous voyons maintenant toujours dans le palais de l'Institut, donc le faisceau de lecteurs et les 3 étoiles sur tous les bâtiments qu'il a fait construire. En revanche, les armoiries n'avaient pas été apposées sur ces livres. Donc, les livres étaient anonymes, sauf quelques cadeaux très somptueux. Ça ne les a pas sauvés, ça fait qu'il était très difficile de les retrouver.
Oui, mais ils n'ont pas été martelés, comme on verra la Révolution, où certains livres qui avaient des armoiries ont été dépecés.
Alors ça, la suppression des armoiries sous la Révolution, c'est effectivement très particulier, mais c'est une chose qui ne se pratiquait pas auparavant, c'est-à-dire qu'on pouvait remplacer les armoiries d'un possesseur par celle d'un possesseur suivant,
mais
ça ne s'est pas fait à ma connaissance.
Alors, revenons à Mazarin, je vous ai emmené trop vite, trop loin.
Et donc, une fois que la vente a été consommée, au grand désespoir de Naudé, qui voyait s'effondrer l'œuvre de sa vie, Naudé a accepté les propositions de la reine Christine de Suède, qui à ce moment-là constituait ses extraordinaires collections à
C'était
Stockholm.
Aussi une grande humaniste.
Une grande humaniste, une grande bibliophile, une grande amateur d'art. Et Naudé est parti à son service en Suède, donc renonçant enfin, à ce qui avait été sa principale occupation depuis 10 ans. Évidemment, l'histoire a tourné. Mazarin a repris le pouvoir et est rentré à Paris. Naudé a pris le chemin du retour pour reprendre son service auprès de Mazarin, mais il est malheureusement mort en route et il n'a jamais rejoint Paris. La bibliothèque a cependant continué avec un successeur, François de la Poterie. Évidemment, beaucoup de ceux qui avaient acheté des manuscrits ou des livres de Mazarin les ont rendus. Christine de Suède notamment, qui avait aussi acheté tous les manuscrits de Mazarin, les a restitués. C'est comme ça que la Bible de Gutenberg, le premier exemplaire connu conservé dans les collections françaises, voilà, qui appartenait à Mazarin, est rentrée dans ses collections. Elle avait été achetée par un avocat au Parlement de Paris qui s'appelle Jobert. Et ce monsieur Jobert a constellé l'exemplaire de la Bible de Gutenberg de son ex-libris, qui figure toujours sur certaines des pages de la Bible. Et puis, la bibliothèque a repris son activité, on a continué à acheter des livres, etc. Et à la mort de Mazarin en 1661, la bibliothèque avait repris sa taille primitive. N'avait pas dépassé, mais enfin, elle était reconstituée, évidemment enrichie de nouveautés. Donc à ce moment-là,
Et que devient-elle
la mort de Mazarin, évidemment, c'est un cataclysme. Enfin, tout change, évidemment, au point de vue politique. Louis XIV prend le pouvoir, se pose la question de ses collections. Il a des héritiers qui sont ses nièces et les époux de ses nièces. Et comme il a une collection absolument extraordinaire de peintures, de pierres dures, de tapisseries, finalement, il fait mine, il y a une espèce de tour de passe-passe très amusant au moment de la mort de Mazarin, il fait mine de vouloir léguer tout cela à Louis XIV. Louis XIV, c'était un petit peu convenu sans doute, refuse noblement. Et finalement, Louis XIV rachètera aux héritiers de Mazarin une partie très importante de ses collections d'art et qui sont, on peut le dire, vraiment le noyau des collections royales françaises qui vont être évidemment constituées et amplifiées par Louis XIV avec notamment l'impulsion de Colbert. Il ne faut pas oublier que Colbert est rentré au service de Mazarin comme Mazarin était entré au service de Richelieu. Et Colbert, après la mort de Mazarin, va évidemment passer au service de Louis XIV. Alors pour la bibliothèque, c'est un petit peu différent. Mazarin avait comme modèle Richelieu. Richelieu avait favorisé de son vivant un collège. Évidemment, les collèges d'Ancien Régime, ça n'a rien à voir avec les collèges de maintenant. Ce sont des établissements d'enseignement supérieur assez proches de ce que sont encore des collèges comme ceux d'Oxford ou de Cambridge. Et donc, la Sorbonne n'était pas une université sous l'Ancien Régime, c'était un collège. Et Richelieu avait donné de l'argent à la Sorbonne, avait fait reconstruire la chapelle par son architecte Le Mercier.
Oui, où il est enterré.
Voilà, il avait souhaité que la chapelle de la Sorbonne soit son tombeau. Et il avait également légué sa bibliothèque au collège de Sorbonne. Alors Mazarin va décider de faire la même chose, mais au lieu de faire comme Richelieu et de prendre un établissement déjà existant et de lui donner un essor considérable, il choisit de créer un nouvel établissement. Et donc, dans son testament, il laisse de l'argent pour la création d'un collège qu'on va appeler le Collège des Quatre Nations. Quatre Nations parce que ce collège est destiné à accueillir des jeunes nobles issus des quatre provinces qui ont été rattachés à la France pendant qu'il en était le principal ministre. L'Artois, le Roussillon, l'Alsace et j'oublie la quatrième.
Il s'agit de Pignerolles, je crois, le verrou des Alpes.
Et donc ce collège n'existe pas, il faut le construire. Tout ça est un peu long. Bon, on charge finalement l'architecte Levaux, qui vient d'intervenir dans la rénovation de la cour carrée du Louvre, de mettre en œuvre ce projet. Et il conçoit donc ce magnifique bâtiment qui est maintenant le palais de l'Institut de France et qui, dont l'arc de cercle, c'était prévu par Levaux d'ailleurs. Levaux avait conçu ce bâtiment comme devant fermer la perspective depuis la cour carrée du Louvre.
Oui, parce que c'était l'œuvre de Levaux, part et d'autre
voilà,
de la
Levaux
scène.
Levaux était rive gauche, rive droite. Oui. Il avait conçu un projet global. Donc ce merveilleux bâtiment sort de terre assez rapidement finalement, puisqu'il était terminé pour l'essentiel 7 ans après la mort de Mazarin. Et la construction du monument funéraire de Mazarin prend plus de temps, puisque le monument qui est toujours maintenant dans la chapelle, ce qui était la chapelle du Collège des Quatre Nations et qui est maintenant la coupole de l'Institut, n'a été terminé qu'en 1691. Et donc Mazarin est enterré dans la chapelle du Collège des Quatre Nations auquel il a décidé de léguer sa merveilleuse bibliothèque. Donc dès 1668, la bibliothèque quitte son bâtiment de la rue de Richelieu. Et quand je dis la bibliothèque, je veux dire toute la bibliothèque, c'est-à-dire les livres, mais aussi les merveilleuses colonnes sculptées de 1647, les rayonnages. Alors les bustes en marbre, non, on a l'impression quand on est maintenant dans la bibliothèque Mazarine que ces bustes en marbre ont toujours été là. En fait, ils sont arrivés seulement avec l'abbé Leblon, justement, et avec la Révolution. Ils ne faisaient pas partie du décor d'origine du XVIIe siècle. pour la bibliothèque de Mazarin. Ça n'est pas vrai pour d'autres bibliothèques du XVIIe.
Et alors, le passage de la bibliothèque originelle à celle des Collèges des Quatre Nations faisait qu'elle était quand même toujours publique.
Voilà, c'était une des conditions stipulées dans le testament de Mazarin. Elle restait publique et elle n'a jamais cessé de l'être, finalement.
Ça a été sa chance.
Ça a été sa chance, ça l'a sauvée au moment de la Révolution, ainsi que d'autres facteurs, évidemment, comme l'activité de l'abbé Leblon.
Oui, alors justement, cette période révolutionnaire qui est si importante, qu'en est-il pour la bibliothèque et du citoyen Leblon ?
Alors, le citoyen Leblon, donc là, on fait un grand saut chronologique. On a ouvert le Collège Mazarin et la bibliothèque du Collège des Quatre Nations en 1689, en fait, ça a pris un petit peu de temps. Et pendant environ 100 ans, le Collège et sa bibliothèque et sa chapelle mènent une vie de Collège d'Ancien Régime. On continue à acheter des livres pour la bibliothèque, des livres de travail, des livres qui n'ont pas, évidemment, la somptuosité de ceux qu'avait pu posséder Mazarin. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que Colbert, une fois passé au service de Louis XIV, se rappelle évidemment que la bibliothèque de son ancien patron est la plus belle existante et qu'au moment où il décide, enfin il propose à Louis XIV, qui évidemment accepte, de recréer une bibliothèque royale qui avait une période extraordinaire au XVIe siècle, mais qui était très endormie depuis les guerres de religion, il décide de faire acheter par la bibliothèque royale les manuscrits de Mazarin. Donc, toute la bibliothèque de Mazarin est bien arrivée au Collège des Quatre Nations, sauf, et c'est un sauf très important, sauf les manuscrits qui, eux, sont rentrés dans les collections royales.
Oui, c'était un acte de confiscation.
Presque. Alors, il y a eu une espèce de simulacre, une palinodie d'estimation. On a estimé tout ça très peu cher et finalement, les manuscrits sont restés dans les collections royales. Donc, la bibliothèque du Collège des Quatre Nations avait une très grande quantité de livres imprimés, continuait à en acheter, mais n'avait pas de manuscrits. Et c'est une des choses dont nous sommes tellement redevables à l'abbé Leblon, c'est d'avoir constitué une seconde collection de manuscrits en profitant des turbulences liées à la Révolution.
Alors, à la Révolution,
alors, à la Révolution, donc, notre bibliothèque vivait sa vie de bibliothèque érudite, ouverte au public et servante aux élèves et aux professeurs du collège. Alors, au moment de la Révolution, l'abbé Leblon est sous-bibliothécaire depuis une vingtaine d'années. Il est rentré à la bibliothèque Mazarine en 1767 comme sous-bibliothécaire. Et il n'a jamais pu devenir bibliothécaire en chef parce que suivant les statuts, les dispositions testamentaires de Mazarin, le bibliothécaire de la Mazarine devait être un professeur de Sorbonne. Donc lui n'avait pas ce titre-là.
Il était académicien, il n'avait pas grand collectionneur, très apprécié, mais il n'était pas professeur de Sorbonne.
Donc c'est un autre personnage qui bénéficiait du poste, qui est l'abbé Houque, et dont on n'aura qu'une idée, évidemment, c'est de s'en défaire et de le remplacer.
Comment cet homme est arrivé à devenir le directeur de la Mazarine à partir de 1791 et qu'a-t-il fait ? Que se passait-il dans ce monde culturel, bibliothécaire, au moment des grandes confiscations ?
Alors Leblon avait en fait une très solide... Bon, il était bibliothécaire depuis assez longtemps, mais ses hauts faits, si j'ose dire, en matière de bibliothèque étaient assez mesurés. Il avait consacré assez peu d'activité, assez
au
peu
livre.
De son activité aux livres. Sa principale activité, pour laquelle il est extrêmement connu, il était un antiquaire. C'est-à-dire, quand on emploie le mot antiquaire au XVIIIe siècle, c'est un petit peu un synonyme de notre moderne archéologue. C'était un historien qui s'occupait d'histoire de l'Antiquité, essentiellement à partir des témoignages du passé voilà, dont on disposait à une époque où on est avant les grandes fouilles archéologiques, etc. Donc les principaux témoins, ce sont les médailles et les pierres gravées, la glyptique. Enfin, ce sont eux qui constituent vraiment les documents essentiels pour les historiens à ce moment-là. Et alors, Leblond, très brillamment, tout arrive un petit peu en même temps. Il naît en 1738, il est normand, on ne sait pas très bien ce qu'il fait. Le peu qu'on sait de lui, on le voit faire des choses pas très très...
Un peu douteuses parfois.
Voilà, un petit peu douteuses, des emprunts jamais rendus, des choses... Bon. Et à partir des années 1770, il apparaît au grand jour, il devient le favori, le protégé, l'adjoint d'un très très grand savant qui est Pellerin.
Qui devenait aveugle.
Voilà, qui était en train de perdre la vue, qui était le plus grand numismate, si vous voulez, de sa génération. Et au moment où Pellerin perd la vue, il donne toute sa confiance à Leblond et Leblond l'aide à terminer ses travaux savants. Et quelques années plus tard, Pellerin va mourir, je crois, en 1786. C'est lui qui est embauché d'une certaine manière par le garde, c'est-à-dire le bibliothécaire du cabinet des médailles, si vous voulez, à la Bibliothèque nationale, la bibliothèque enfin, royale à ce moment-là, décidant d'acquérir toute la collection de Pellerin. Et Leblond sert de go-between, si vous voulez, dans cette transaction, et il acquiert du même coup la confiance de l'abbé Barthélemy, qui lui règne sur le cabinet des médailles de la Bibliothèque royale. Donc, il prend une place très importante dans ce paysage des
numismates. Il s'était fait un nom grâce à ça.
Et il était en même temps très savant, donc il a fait beaucoup de publications savante. Il a concouru très brillamment pour les différents concours qui étaient proposés par l'Académie des inscriptions dès le début des années 1770 et tellement brillamment qu'il est reçu membre de la dite Académie en 1772. Et ses travaux sont unanimement, sont très très fortement appréciés. Et il a une autre œuvre à son actif, c'est à part la collection de Pellerin dont nous venons de parler, il y a une extraordinaire collection de médailles et de pierres gravées qui est celle des princes de la famille d'Orléans. C'est une collection qui remonte à la princesse Palatine, qui était une grande collectionneuse, et qui a été poursuivie par ses héritiers, qui l'ont augmenté en acquérant un autre cabinet. Vous savez, c'est souvent comme ça que se forment les collections, par achat groupé, le cabinet du financier Pierre Crozat. Et cette collection extraordinaire, pas besoin de rentrer dans les détails, mais le duc d'Orléans en fonction, c'est-à-dire le père du futur Philippe Égalité, décide d'en publier le catalogue. Et c'est l'abbé Leblond et le garde des collections d'Orléans, l'abbé de La Chaux, qui publient conjointement le catalogue des pierres gravées de la collection du duc d'Orléans, deux gros volumes qui paraissent en 1780 et 1784, avec des magnifiques illustrations qui sont dues à l'un des frères de la grande famille des dessinateurs, qui sont dues à Augustin de Saint-Aubin. Et c'est une sélection, c'est-à-dire que la collection est énorme, elle contient 1500 pièces, je crois, et c'est une sélection des 80 plus belles pierres gravées de la collection. Alors, comme toujours, quand il y a publication, il y avait une espèce d'objectif. L'objectif est atteint dans les 3 années qui suivent, c'est-à-dire que Philippe Égalité, pour le coup, qui à ce moment-là est devenu duc d'Orléans, vend la collection en bloc à Catherine de Drussy et que les médailles en question sont maintenant toutes à Saint-Pétersbourg.
C'est bien triste. Décidément, ce Philippe Égalité n'avait pas le sens français très développé pour un prince du sang. Pour en venir à Leblond, qui est devenu donc ce fameux directeur de cette période si tourmentée, quels étaient ses goûts esthétiques, artistiques, ses opinions politiques et comment a-t-il participé à la protection des collections des livres ?
Alors, ses opinions politiques, il était évidemment beaucoup trop habile pour en faire état, en tout cas sous l'Ancien Régime, mais il est évident que c'était un homme des Lumières et qu'il était très probablement athée, et qu'il a accueilli avec énormément d'enthousiasme la Révolution et les idées nouvelles. Un de ses premiers gestes a été de faire accuser l'abbé Houque de n'avoir pas prêté le serment à la constitution civile du clergé, de l'évincer, de le chasser de son appartement en le faisant vider clandestinement et de le remplacer. Tout ça a été fait extrêmement rapidement dès 1791. Comme il est très connu et qu'il est considéré comme un très grand antiquaire et un très grand savant, et qu'il est extrêmement habile, il réussit tout de suite à obtenir une place de premier plan dans la commission qui va être chargée à la suite de la suppression des communautés religieuses, puis ensuite au moment de la confiscation des biens des immigrés, et enfin en 1793 quand on supprime toutes les institutions comme les universités, les collèges, les académies, etc.
Elles sont vidées.
Elles sont vidées et tous leurs biens, leurs objets d'art, leurs livres sont nationalisés et mis à la disposition de la nation, plus exactement. Ils sont répartis par cette commission, justement, qui change de nom, mais une commission chargée de la confiscation, et qui répartit toutes ces collections extraordinaires dans des dépôts nationaux. Il y a 8 dépôts pour les livres à Paris et des dépôts pour les objets d'art, dont le plus proche et tout près de la bibliothèque ex des Quatre Nations, c'est le dépôt des Petits Augustins, installé dans le couvent des Petits Augustins, qui est maintenant l'école des Beaux-Arts, et dans lequel un ami protégé de Leblon, qui s'appelle Alexandre Lenoir, va avec Leblon stocker tous les monuments importants qu'ils peuvent sauver du vandalisme et du pillage.
C'est-à-dire les objets tout autant que les livres.
Les objets tout autant que les livres. Et finalement, l'abbé Leblon, si je le compare par exemple au bibliothécaire de la Bibliothèque royale devenue nationale à la même époque, Van Praat, le célèbre Van Praat. Van Praat, lui, est issu des milieux de la librairie, d'une famille de libraires. Il connaît admirablement les livres et il les connaît mieux que ne les connaît l'abbé Leblon, qui, lui, reste à cheval entre les livres et les objets.
Ça doit être très dur de gérer tout l'afflux de ces ouvrages et de ces objets qui sont confisqués à Paris, en province. Puis quand on passe au consulat, c'est aussi dans les pays envahis par le premier consul
en Italie,
que tout ça arrive à Paris.
Oui.
Comment peut-on gérer cet afflux incroyable ?
Alors ce sont des quantités absolument ahurissantes. On arrive à gérer à peu près la gestion des objets et des livres, c'est-à-dire que l'administration révolutionnaire a été très efficace, des registres extrêmement bien tenus ont été mis en place et ont été tenus de manière très régulière tout au long de la période d'abord révolutionnaire puis consulaire, et donc on suit assez bien les entrées et sorties de tous ces documents. Là, en revanche, où l'échec, c'était invisible, les quantités étaient tellement monstrueuses, il y a énormément de projets de catalogue, puisqu'il s'agit non seulement, prenons l'exemple des livres, les livres et les manuscrits sont confisqués donc soit dans des couvents, soit chez des émigrés, et répartis entre des dépôts littéraires, où donc là, un beau registre est tenu à l'entrée dans le dépôt littéraire, avec indication de la provenance et de la personne ou de l'institution chez qui ils ont été confisqués. Et puis après, les rares bibliothèques autorisées à subsister, donc évidemment d'abord la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque des Quatre Nations, la Bibliothèque de l'Arsenal et la Bibliothèque de Sainte-Geneviève, ont l'autorisation de puiser dans ces dépôts, mais là aussi il y a toute une paperasse, c'est une procédure administrative. Autre registre de sortie, on indique pour chaque livre à qui il a été attribué.
Et
c'est fait avec beaucoup de rigueur, oui. Et c'est pour nous très utile parce que ça nous permet à nous, les conservateurs de maintenant, de retrouver l'origine de telle ou telle
pièce,
les provenances, et c'est très intéressant.
Oui, c'est toujours très touchant de voir toute l'histoire d'un livre, les passages des uns, des mains.
Voilà, tout à fait. Ça nous permet de faire son pédigré.
Alors, en fait, on peut dire que Leblon, malgré quelques abus, quelques excès qui sont forcément pardonnables, a contribué incontestablement à sauvegarder d'innombrables richesses artistiques, scientifiques, littéraires, qui auraient été vandalisées autrement, en tout cas qui seraient disparues vraisemblablement. Isabelle de Cogniou, quels sont les trésors obtenus grâce à l'ingéniosité de Leblon que vous présentez jusqu'au 5 mars 2010 à la Mazarine?
Alors effectivement, l'activité de Leblon a eu deux aspects. Son activité au plan national dont nous venons de parler et que je vais abandonner sans oublier de dire que c'est surtout avec le Noir et ce qui va devenir le musée des monuments français qu'il y a eu une action très très importante pour la sauvegarde des œuvres d'art. Par exemple, ils n'ont pas réussi à s'opposer à certaines destructions, comme la destruction du château de Madrid construit par François Ier, mais ils ont sauvé énormément de choses, les esclaves de Michel-Ange, les trois grâces de Pilon, les fragments du château d'Anet qui sont encore aujourd'hui dans la cour
dans
de
la
l'école,
de l'école des Beaux-Arts.
Et pour les livres, ça a été, ils n'ont pas été les seuls, mais ça a été effectivement
les bienfaiteurs.
La même chose. Alors ça, c'est donc l'œuvre de Leblon au plan national. Pour la bibliothèque dont il avait la charge, la bibliothèque Mazarine, il a été effectivement un second fondateur, puisque dans un premier temps, la Mazarine avait certes été autorisée à subsister, mais elle n'avait pas été autorisée à puiser dans les confiscations révolutionnaires. Et donc, il a écrit des lettres extrêmement bien tournées, extrêmement convaincantes, qui font qu'il a fini par obtenir cette autorisation un petit peu tard, en 96 simplement. Et à ce moment-là, il n'arrête pas. Il va dans les dépôts très régulièrement. Il fait des listes où il réclame. Et il réussit à obtenir pour la bibliothèque, c'est un petit peu difficile à chiffrer encore aujourd'hui, mais peut-être 60 à 70 000 livres imprimés.
Et dont des livres exceptionnels.
Dont énormément de livres exceptionnels. Et puis une collection de manuscrits donc, qui n'existait plus. Environ 4500 manuscrits rentrent à la bibliothèque Mazarine à cette époque, dont 1500 manuscrits médiévaux. Alors quand il a été décidé de faire cette exposition, évidemment, je me suis retrouvée devant quelque chose comme 60 ou 70 000 volumes, parmi lesquels il s'agissait de faire un choix. Donc j'ai repris cette idée qui avait été déjà la mienne au moment des festivités en l'honneur de Mazarin, et j'en ai donc choisi de manière un petit peu arbitraire, un petit peu suivant évidemment mes intérêts, mais aussi les travaux qui ont été faits ces dernières années, les expositions que nous avons faites à la bibliothèque Mazarine. Et puis j'ai choisi évidemment de privilégier les manuscrits, puisque c'est à Leblon que nous devons notre collection. Donc, sur ces 30 pièces exposées jusqu'à la fin du mois de février, plus de la moitié, 16 je crois, sont des manuscrits qui, un petit peu par hasard, sont des manuscrits essentiellement de deux périodes, des manuscrits de haute époque, du XIe et du XIIe siècle, et puis tout un ensemble de manuscrits du XVe siècle. Il s'agit de manuscrits absolument remarquables par la qualité de leur enluminure et de leur peinture, des manuscrits très, très, très spectaculaires. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres à la Mazarine, mais
il fallait choisir, de toute façon.
C'était déchirant, c'était très amusant. Alors, le plus ancien dans l'exposition, qui n'est pas le plus ancien manuscrit conservé à la Mazarine, est un graduel à l'usage de l'abbaye de Saint-Denis, qui date du deuxième quart du XIe siècle, qui est un manuscrit musical, avec des enluminures absolument extraordinaires, dans des coloris de bleu et d'orange, et puis une écriture musicale tout à fait importante aussi. Le manuscrit en question a été confisqué sous la Révolution à Notre-Dame de Paris, où il était entré, c'est une histoire un petit peu compliquée, mais ce qui est amusant, c'est qu'il y était arrivé, il a appartenu au XVIe siècle, à un avocat, un parlementaire qui s'appelle Antoine Loisel, et dont on sait qu'il était un ami de Montaigne. Voilà.
C'était pas la Boétie, mais c'était quand même un ami de Montaigne.
C'était quand même un ami de Montaigne, il y a un érudit qu'il connaissait. Et on connaît l'exemplaire des essais de Montaigne que Montaigne a offert à Antoine Loisel avec une très jolie formule pour se revancher, dit Montaigne, puisque Loisel lui-même lui avait offert un de ses livres. Et il est intéressant de voir qu'en plein XVIe siècle, cet Antoine Loisel profite des troubles arrivés à la suite des guerres de religion pour obtenir, acheter, on ne sait pas très bien dans quelles conditions, des manuscrits très 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 anciens et très précieux provenant des abbayes qui à ce moment-là sont dévastées par les protestants ou par les guerres. Et c'est donc un cas très intéressant. C'est les débuts. Leblon était membre de l'Académie des inscriptions. Il le restera d'ailleurs après la recréation des académies et de l'Institut de France par Napoléon. Ces antiquaires du XVIe siècle sont un petit peu les précurseurs des savants de l'Académie des inscriptions et ce sont eux qui ont contribué à sauver ces manuscrits extrêmement anciens qui sont les premiers témoignages de l'histoire de la France médiévale. Tout à fait. Alors un tout petit peu plus récent, à l'extrême fin du XIe, du début du XIIe siècle, il y a un manuscrit extraordinaire qui est le bréviaire du Mont Cassin. un manuscrit enluminé donc dans la grande abbaye bénédictine italienne. Qui nous vient d'Italie, qui est un chef-d'œuvre du scriptorium du Mont Cassin. Puis là, nous sommes évidemment dans ces hautes époques où l'enluminure est l'apanage presque exclusif des grandes abbayes. Et l'enluminure et l'écriture des manuscrits.
Là,
c'est un manuscrit extraordinaire avec des lettres ornées absolument très, très spectaculaires qui mélangent les influences de l'art ottonien et de l'art byzantin avec les lévriers qui sont la marque du scriptorium. C'est vraiment un manuscrit tout à fait remarquable.
Ça, c'est encore une lettrine, je vois.
Alors, les deux manuscrits dont nous venons de parler sont d'assez petits formats. Maintenant que nous disposons de tellement de merveilleuses reproductions de manuscrits et d'enluminures, notamment pour les manuscrits de la Mazarine, toutes les enluminures sont visibles sur Internet, sur un site appelé Liber Floridus. Mais quand on voit ces images en ligne, on ne se rend pas compte du format réel des choses. Et donc, il faut venir les voir sur place parce qu'à côté du somptueux bréviaire du Mont Cassin, mais qui est d'assez petite taille, il y a cette énorme Bible romaine enluminée probablement dans l'abbaye de Corbie dans le troisième quart du XIIe siècle avec une énorme page tout entière tapissée, c'est la grande page initiale de la Genèse dans laquelle les lettres I et N
sont entrelacées
et surchargées d'épisodes de la création, de la chute d'Adam et Ève, etc.
Cain et Abel.
C'est un manuscrit grand comme une table, enfin très 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 spectaculaire. Voilà quelques-uns des manuscrits très anciens.
Des incunables.
Et alors, nous avons, et d'autre part, le 15e siècle est très bien représenté dans cette exposition, avec à la fois des manuscrits et des livres imprimés. Parce qu'on oublie que, bien sûr, la Bible de Gutenberg, c'est 1455, mais pendant tout le 15e siècle, le manuscrit et l'imprimé coexistent. Et ça n'est que progressivement que l'imprimé va réellement prendre, évidemment, la place qui est la sienne. Pour combien de temps encore, nous ne le savons pas très très bien. Et donc, j'ai fait voisiner dans l'exposition des manuscrits et des imprimés qui sont réalisés à très peu d'années de distance. Il y a par exemple un somptueux missel à l'usage de Paris, là encore un manuscrit énorme qu'on date d'environ 1492 et qui est dû à un enlumineur extrêmement remarquable, qui est le maître de Jacques de Besançon. Et ce grand manuscrit voisine dans l'exposition avec un livre imprimé en 1488 qui est la première édition d'un roman de chevalerie arthurien qui est l'édition de Lancelot du Lac, première édition, Rouen, 1488. Juste à côté, dans la vitrine suivante, un autre énorme manuscrit qui est un manuscrit des Antiquités judaïques de Flavius Joseph. C'est un manuscrit de la Renaissance. Il est réalisé en 1503, mais alors, il y a 10 ans d'écart avec le manuscrit de 1492, mais tout est différent. Il a appartenu à Georges d'Amboise, qui était un fastueux prélat ministre de Louis XII et qui s'était entiché de la Renaissance italienne, qui avait acheté une partie de la bibliothèque des rois aragonais de Naples et qui a demandé, c'est ça qui est extraordinaire, il a demandé à des artistes parisiens et rouennais, puisqu'il était archevêque de Rouen, et que sa librairie, comme on dit à cette époque, sa bibliothèque était au château de Gaillon, de s'inspirer des manuscrits de la Renaissance italienne. Et donc cet énorme Flavius Joseph a une vingtaine de grandes pages avec des ornements Renaissance, des camées, des trophées antiques, faits dans le goût de la Renaissance par des artistes français.
Vous avez encore beaucoup de trésors, mais il faut qu'on en choisisse quelques-uns.
Alors toujours dans la veine romanesque, il y a ce qui est un des très très rares exemplaires connus. Il y en a moins de 6 au monde, du premier roman français imprimé, illustré, qui est le roman de Mélusine, qui est un livre imprimé à Genève en 1478. C'est un exemplaire colorié, illustré de 63 grandes planches à pleine page, dans lesquelles on voit les épisodes bien connus des amours de Mélusine et de Raymondin, notamment la scène dans laquelle Raymondin a découvert que Mélusine avait une queue de serpent et elle est découverte et elle s'envole par la fenêtre et elle revient allaiter ses enfants. Et puis, donc, c'est une de ces histoires qu'on aimait tant encore au 15e et au début du 16e siècle.
Et longtemps.
Et qu'on a aimé très, très, très longtemps. J'ai mis aussi des textes, il n'y a pas que la littérature, il y a aussi des textes scientifiques. Enfin, un, par exemple, très important qui est... Quand je dis texte, c'est surtout un livre d'images. C'est le premier grand traité de perspective imprimé, celui de Jean Pellerin d'Iviator, qui est une espèce de le manuel, si on veut, de perspective à l'usage des artistes et des architectes. Et qui est très, 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 très spectaculaire parce que, dans un souci didactique, les personnages sont schématisés à l'extrême. Donc, les planches représentent des monuments. Voilà, c'est presque comme de l'art moderne, ce qui a assuré, évidemment, un très grand succès à ce traité rarissime, puisque de cette édition de Toul, le 1509, on ne connaît que 7 exemplaires au monde. Un autre livre très rare présenté dans l'exposition, c'est l'un des 3 exemplaires connus simplement du récit du voyage de Jacques Cartier au Canada. Donc de sa seconde expédition qui va lui permettre de remonter le Saint-Laurent jusqu'à l'emplacement actuel de Montréal et de Québec. Alors ça, c'est un livre, je pense, que toute l'Amérique nous l'envie. Il n'y a que 3 exemplaires. C'est la première fois que le mot Canada est imprimé. Il y a un exemplaire à la British Library, il y en a un à la bibliothèque de Rouen, un à la Mazarine. Et c'est tout. Et puis, que choisir encore? L'exemplaire manuscrit du roi Henri III II, c'est des statues de l'ordre du Saint-Esprit. Il y a un des très rares manuscrits connus du Viandier, qui est donc le grand texte de gastronomie du Moyen-Âge, le Viandier de Taïwan, dont on connaît, je crois, 4 manuscrits simplement. Alors, ça n'est pas le plus ancien, mais c'est quand même une chose tout à fait remarquable, que nous allons d'ailleurs prêter bientôt à l'exposition qui commence au château de Langeais, au mois d'avril, sur la gastronomie au Moyen-Âge. Il y a une reliure de deuil, un exemplaire offert à Catherine de Médicis en maroquin noir à semer de larmes d'argent. Il y a...
Et puis la dernière représentation dans votre livre qui est superbe, c'est cette gouache.
Ah oui, les merveilleuses planches des dessins de Louis-François Cassas, qui est un peintre dessinateur de la fin du XVIIIe siècle, qui, d'une certaine manière, sponsorisé, voilà un vilain mot, par le duc de Choiseul, a fait des voyages extraordinaires en Italie, mais aussi au Moyen-Orient, au Liban, en Grèce, en Turquie, en Égypte. On a rapporté des dessins extraordinaires qui ont été gravés par les frères Piranèses que Lucien Bonaparte avait installé à Paris au début du XIXe siècle, et gravés suivant une technique très particulière, c'est-à-dire des gravures très légères à l'eau forte qui sont reprises à la plume et enluminées à l'huile, à l'aquarelle ou à la gouache, de manière à donner l'illusion de dessin ou de tableau. Alors, j'en ai mis 3 dans l'exposition. Nous en avons une série d'une cinquantaine de planches qui montre des vues absolument extraordinaires de Rome, bien sûr, mais aussi une vue du lac majeur de l'Isola Bella, une vue du sphinx et de la pyramide d'Égypte.
Oui, c'était des photos, des reportages. Mais des portages esthétiques, artistiques.
Et en même temps archéologiques, parce qu'il s'agit de montrer quand même, sauf la vue d'Égypte qui est un petit peu exagérée.
Oui, un petit peu exagéré, le sphinx.
Voilà, le sphinx est presque aussi grand que la pyramide.
Que par rapport à la pyramide.
Un petit peu trop.
Enfin, c'est un superbe, voilà, une superbe exposition. Et je voulais simplement vous donner le mot de la fin pour voir à quel point cet homme, le blond, est un homme des Lumières qui nous a permis de découvrir cette période particulière.
Disons qu'au sein d'une période effectivement très troublée, on n'est pas forcément d'accord évidemment avec tout ce qui a été fait au point de vue de cette espèce de gigantesque dépeçage des collections existantes. Mais il a réussi dans cette période très troublée à assurer effectivement la survie de pans entiers
de notre culture,
patrimoine national et de
patrimoine.
Notre culture.
C'est pour ça que c'est vraiment bien le second fondateur de la Mazarine.
Et d'ailleurs, cet amour conjoint, en tant que bibliothécaire, il devait obtenir des livres pour la Mazarine, mais il n'a pas manqué d'y faire entrer aussi des objets d'art, dont certains extrêmement précieux. C'est ainsi qu'il y a toujours à la bibliothèque les 2 magnifiques lustres exécutés au milieu du XVIIIe siècle pour le château de Crécy de Madame de Pompadour. Il n'y a plus, en revanche, les 2 seuls meubles boules qui aient été commandés par Louis XIV, c'est-à-dire les 2 célèbres commodes qui sont maintenant dans la chambre du roi à Versailles et que vous pouvez en ce moment voir dans l'exposition Louis XIV au château de Versailles, qui ont donc été sauvés par le blond et qui sont restés dans les embrasures des fenêtres de la Mazarine jusque dans les années 1930, où elles ont été empruntées pour une exposition et puis elles ne sont jamais revenues.
Je vous sens un petit sourire de polémique.
Non, elles sont sûrement à leur place.
Oui.
Mais j'aimerais bien qu'on n'oublie pas que c'est à l'abbé Leblanc qu'on doit leur sauvegarde.
Merci beaucoup. Au revoir Isabelle de Cognot.
Au revoir, merci.